Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire?
Oh, bon sang. Tu recommences toujours la même chanson. Mais qu'est-ce qu'on va faire?
L'agenda culturel d'Escapade.
Pour tout savoir
sur ce qui se passe
près de chez vous.
Stage.
Cinéma.
Festival.
Atelier. Événements sportifs.
Concerts.
Expo.
Balade nature.
L'agenda culturel d'Escapade.
Tous les mardis,
mercredis,
jeudis
et vendredis
à midi.
Rediffusion le soir même à 19h.
Et en podcast à toute heure.
Sur le site radioescapades.org. Tu sais pas quoi faire? Écoute l'agenda culturel d'Escapade. Bienvenue dans votre agenda culturel de ce jeudi 26 octobre et on démarre avec Gange du côté du local de l'autre côté. Aujourd'hui, jeudi 26 octobre à 20h, la cinquième mise en commun. Quand vient la guerre, que faut-il faire? Rencontre avec une militante ukrainienne, ce Solidarity Collective, organisation anti-auto-autoritaire de résistance et de lutte. Le collectif Gange Solidarité propose de réfléchir ensemble aux moyens de soutenir les populations premières victimes de toutes les guerres. Voilà, 26 octobre à 20h. Vendredi 27 octobre, du côté de la médiathèque intercommunale de La Salle, c'est à 18h30. Et ce sont les amis de la bibliothèque qui invitent Renaud Garcia autour du livre « La déconstruction de l'école », journal d'un enseignant 2021-2022 pour une soirée d'échange autour de son dernier livre. Professeur de lycée en philosophie dans les quartiers nord de Marseille, Renaud Garcia raconte la vie à l'école en 2021-2022 en tant que professeur mais aussi en tant que père d'enfants scolarisés. L'auteur participe à l'appel de Beaucastel et au collectif Écran Total contre la numérisation de la vie et des métiers. De Parcoursup au groupe de discussion WhatsApp entre parents d'élèves pour dénigrer la maîtresse en passant par l'omniprésent logiciel Pronote, sans oublier la dématérialisation des copies et l'avènement du distanciel, on suivra mi-amusé, mi-effrayé la vie quotidienne d'un professeur technocritique. Et puis vous avez l'occasion de retrouver une interview donc, de Renaud Garcia par Antoine qu'il a eu hier par téléphone. Vous allez pouvoir entendre cette interview dans les nouvelles du monde qui suivra après cet agenda culturel. Et on continue un peu dans les livres, puisque vendredi 27 octobre, on vous propose d'aller au Vigan, à la petite base aux 3 boulevards des Cévennes, à 18h30, pour la présentation du livre « L'ivresse des communards ». Et justement, je vous propose une interview de Mathieu Léonard, faite par Antoine, hier par téléphone.
Interview.
Antoine.
Mathieu Léonard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien indépendant, se disait-on avant de commencer cette interview, journaliste aussi, essayiste, spécialisé, on va dire, dans l'histoire pas toute récente de la France et de l'Europe en particulier. Et là, vous avez donc écrit un ouvrage qui s'intéresse, qui s'appelle déjà tout simplement, je vais le dire, « L'ivresse des communards, prophylaxie anti-alcoolique et discours de classe de 1871 à 1914 » que vous présenterez ce vendredi 27 octobre à la Petite Base, au Vigan. C'est au 3 boulevard des Cévennes, dès 18h30. Un livre donc qui parle de l'ivresse des communards. Donc ça fait référence à la Commune de Paris déjà, il faut peut-être le préciser pour le contexte historique, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un livre qui prend comme point de départ en fait le discours de classe, le discours anti-communard, hein, où ils sont décrits comme des bêtes fauves, comme la canaille, etc. Et notamment par le prisme de l'accusation d'ivrognerie. Les bourgeois de l'époque disaient qu'il n'y aurait pas eu la commune si, notamment, il n'y avait pas eu l'alcool qui, soi-disant, bien évidemment, c'est une légende que j'essaie de déconstruire, coulait à flot à ce moment-là. Et c'est le moment aussi où certains scientifiques, médecins, notamment de l'Académie de médecine, prennent le prétexte de la défaite de la France face à la Prusse et de la guerre civile, de la commune, pour dire, voilà, l'état de la nation est catastrophique, notamment à cause de ce qu'ils appellent à l'époque la dégénérescence alcoolique. Donc voilà, ça a été le point de départ en fait de mon essai, hein, à savoir comment ce discours se véhicule, comment où il prend place dans la presse évidemment, dans la littérature, mais aussi dans tout un tas de revues scientifiques, hein, hygiénistes, puisque c'est vraiment relié à l'idée hygiéniste qui des psychiatres, des médecins d'époque, qui disent que la science doit gouverner quoi finalement. Donc c'est un peu cette idée, c'est un peu cette, ce passage-là en fait qui m'a intéressé, et aussi voir comment ce discours-là se démocratise finalement au cours de la Troisième République. Donc plus la menace révolutionnaire s'éloigne, plus finalement l'argument change un peu de tonalité, mais il s'agit toujours de dire bon, il faut discipliner la classe ouvrière, les classes populaires, les discipliner leur corps et les discipliner aussi moralement, hein, qu'ils évitent tout ce qui peut les entraîner vers la voie de la subversion, quoi.
Et alors donc la période un peu déclencheur en tout cas de ce livre, peut-être de tout ce phénomène, c'est la Commune de Paris. Est-ce que vous arriveriez en quelques mots déjà à résumer ou à rappeler à nos auditeurs, auditrices en quoi ça consiste? Parce que c'est un épisode historique très prisé de certaines parties de la population, mais très ignoré aussi encore d'autres.
Oui, alors c'est sûr que c'est un moment qui a des difficultés à être intégré au roman national, c'est-à-dire à la lecture, on va dire, officielle de l'histoire de France, puisque c'est un moment révolutionnaire, assez paradoxal, puisqu'il intervient au moment où la République est proclamée après la chute du Second Empire. En fait, voilà, la France a subi une cruisante défaite face à la Prusse après l'été 1870. Napoléon III est défait, la République est proclamée, et puis les Prussiens sont aux portes de Paris, il faut négocier. Et un gouvernement est prêt à capituler avec eux, mais simplement, voilà, la population, pour le prendre sur cet aspect typiquement parisien, parce que la Commune, c'est aussi des communes un peu partout en France, qu'on appelle des communes de province, en tout cas à Saint-Étienne, à Lyon, enfin bon, ça a lieu un peu partout, mais la Commune de Paris va cristalliser le moment révolutionnaire, on va dire, puisque les Prussiens sont aux portes de Paris, le gouvernement d'Adolphe Thiers veut négocier et puis veut liquider finalement la garde nationale, qui est une armée de citoyens finalement. C'est le peuple en armes en fait, c'est pas l'armée régulière. Et donc à la faveur aussi des idées révolutionnaires de l'époque, hein, y a tout un personnel émeutier et insurrectionnel qui va surgir et qui va prendre les commandes de la capitale pendant 10 semaines, 72 jours, avant d'être réprimé par l'armée reconstituée d'Adolphe Thiers et avec la bienveillance des Prussiens à l'époque, et réprimé lors de la semaine sanglante. Donc il y a à peu près de 10 000 à 20 000, les historiens discutent un peu des chiffres, personnes insurgées, fédérées, hommes et femmes qui seront fusillés à Paris dans la semaine de mai, de la dernière semaine de mai 1871. Voilà pourquoi c'est un moment un peu délicat de l'histoire de France, et en même temps un moment qui va nourrir toute une espérance révolutionnaire au cours du XXe siècle.
Oui, ceux qui les ont fusillés sont ceux qu'on a appelés les Versaillais. Vous utilisez le terme justement de la littérature versaillaise. Ça, on peut un petit peu caricaturer peut-être et dire que c'est la bourgeoisie, voire même là pour le coup aussi de l'aristocratie, qui a eu vraiment peut-être très peur de voir une vraie révolution populaire émerger, ou peut-être se reproduire dans l'avenir, et qui a voulu la conjurer en les réduisant à l'état presque d'animaux sous la figure de cet ivrogne.
Oui, c'est ça. C'est en gros, c'est les classes possédantes qui sont représentées à l'Assemblée de Bordeaux puis de Versailles, hein, ce qu'on appelle l'Assemblée des ruraux, mais dans le sens, c'est pas une insulte faite aux gens de la campagne, mais c'est plutôt au vieil état féodal de la société finalement, qui mélange socialement les classes dirigeantes, quoi, finalement la classe propriétaire. Hein. Adolphe Thiers étant lui-même un intellectuel organique de la propriété privée, il défend avant tout la propriété privée et le capitalisme. Donc c'est vraiment un mélange en fait aussi de monarchistes. Il y a aussi ça là dans la révolte de la Commune de Paris, c'est la crainte de voir revenir au pouvoir une monarchie. Donc il y a une dimension très républicaine, hein, Commune de Paris, hein, très, pour le coup, ultra républicaine d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est la crainte d'une révolution, hein, que se rejoue la Révolution française, hein, mais ça habite encore les esprits des Versaillais, de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et puis dans les généraux qui vont commander aux fusillades, hein, de la répression, il y a beaucoup de monarchistes, il y a beaucoup de bonapartistes, etc., qui n'hésiteront pas à liquider, comme ils en ont l'habitude, la population ouvrière parisienne.
Alors pour écrire cet ouvrage, vous avez donc réalisé d'importantes recherches, à la fois de textes, mais aussi d'images. Et j'ai cru comprendre que d'ailleurs la présentation du livre, qui aura lieu donc demain à la Petite Base, se fait aussi avec toute une iconographie qui était peut-être véhiculée justement dans les journaux. On voit un petit peu ces gravures-là qui montrent toujours le gueux, le pauvre, ou des fois le bolchevique, ou des fois le voleur, dans des traits vraiment caricaturaux.
Voilà, oui, c'est un peu... Voilà, pour présenter le livre, en fait, je me suis dit, c'est autant m'appuyer sur l'autre partie du discours, qui est la représentation, qui est la caricature. C'est une période assez riche en iconographie, de presse, en affiches, en dessins de journaux, enfin, et de caricatures, hein, par la force des choses. Mais il y a aussi une caricature d'extrême-gauche, hein, une caricature anarchiste, etc. Donc j'utilise un peu tous les ressorts un peu de cette caricature pour montrer comment se forgent aussi à ce moment-là des stéréotypes. Dans le livre, je m'attache plus au discours, à celui qui est issu des journaux, des revues scientifiques notamment, et des discours politiques ou biologiques ou médicaux. Mais voilà, là pour illustrer en fait le bouquin, j'ai trouvé que c'était mieux, c'était plus vivant aussi d'utiliser ces images parce que le fond iconographique est passionnant et généralement ça marche assez bien.
Ouais, et puis bon, ils sont quand même assez fascinants, voire assez hilarants même, ces caricatures, ces caricaturistes, dans la manière justement extrême de représenter tout cela. Vous expliquez aussi dans la petite introduction justement à ce livre que on peut déjà, enfin vous y décelez en tout cas les prémices peut-être de courants idéologiques futurs, enfin postérieurs en tout cas à cette période. Avec cette opposition entre un corps ou un humain complètement dégénérescent et donc peut-être par opposition un individu qui serait lui un peu plus pur, sain. Et vous y voyez peut-être même les prémices d'événements idéologiques futurs.
Oui, ça ouvre la porte, ça ouvre la porte un peu à l'idée de génisme, hein, qui est en gestation déjà à l'époque dans cette théorie de la dégénérescence qui est très 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 forte en France, hein. C'est quelque chose qu'on ignore un peu aujourd'hui, mais donc la dégénérescence, notamment la dégénérescence alcoolique, mais pas que, hein, c'est la transmission en fait de toutes les tares de génération en génération. Et là-dessus vient aussi se greffer tout un discours qui vient du Royaume-Uni, hein, qui est le darwinisme social, qui pensent que les sociétés modernes nourrissent en leur sein finalement une forme de dégénérescence, puisque c'est plus la survie des plus aptes, c'est une sélection à rebours, et finalement les classes, les classes les plus nombreuses développent en leur sein des dégénérés, des tarés, etc. Donc il y a une question. Il y a une question presque de survie, c'est dramatisé bien sûr par ces scientifiques-là ou pseudo-scientifiques, de survie de l'espèce humaine face au risque d'une dégénérescence de l'humanité. Donc le darwinisme social et le génisme arrivent en renfort finalement de la théorie de la dégénérescence, et donc ça va nourrir des idéologies finalement de sélection humaine, hein, dont on va voir les résultats évidemment au cours du XXe siècle, d'abord dans les pays libéraux comme les États-Unis, mais aussi dans l'Allemagne nazie, hein, puisque le processus de génisme chez les nazis accompagne la politique d'extermination, hein, annonce et accompagne la politique d'extermination. Donc voilà, c'est quelque chose qui est qui nourrit un discours, hein, le discours du biopouvoir finalement, de comment gérer le bétail humain, et tout ça travaille aussi déjà les questions à la fin de la Commune, enfin au moment de la Commune, et je montre comment ce discours va évoluer, comment il se nourrit aussi des grandes paniques morales de l'époque.
Alors pour revenir à l'alcool, qui est quand même un sujet central dans ce livre, est-ce que, pour terminer, par rapport au monde contemporain, vous voyez des parallèles ou au contraire des choses qui ont complètement bougé dans cette représentation des classes qui boivent par exemple? ou dans d'autres figures qui seraient apparues depuis sur bah, justement d'autres dégénérescences que l'on pourrait pointer du doigt, qui ne seraient peut-être pas du coup directement liées à une consommation de substances, par exemple.
Oui, alors l'idée que l'alcool est vraiment un fléau social à combattre, il y a un siècle, on va dire, il y a un peu plus d'un siècle, une dimension politique très forte qu'elle n'a plus actuellement, quoi. Sans doute, c'est différent. C'est différent.
En tout cas, en France, oui, non.
Pardon ?
En tout cas, en France, oui, non. La culture de la boisson alcoolique est très véhiculée,
voilà, il y a même une certaine complaisance. On va parler de coût social du tabac, de l'alcool, de la drogue, etc. Donc c'est un prisme un peu économique, enfin coût social et coût sanitaire aussi. Donc on va parler d'un danger pour la santé, mais on va pas et pour l'économie, mais on va pas parler on va pas
de
moraliser
fléau,
politiquement ouais. comme on le faisait à l'époque. Beaucoup moins on marche un peu sur des œufs et puis ça reste un lobby industriel très très puissant. Hein. L'alcool et le vin en France, ça quand même, j'apprends rien, mais ça a quand même une dimension très importante. Donc le rapport qu'on peut faire après avec le temps présent, avec l'évolution, c'est autour des politiques contre la drogue, hein, de la guerre contre la drogue, voir un peu s'il n'y a pas des passerelles dans l'idée prohibitive qui a eu ses effets en Amérique hein, dans les années 20, et la lutte impossible, hein, qui semble impossible ou qui semble contre la drogue aujourd'hui ou contre différentes drogues, il faut définir ce que c'est une drogue aussi. Donc ça peut être une espèce de renvoi à une actualité. Après, le discours sur les populations, les classes dangereuses qui se laissent aller à la boisson et qui deviennent subversives, eh ben, on l'a eu un peu au moment des Gilets jaunes, finalement, parce qu'on entendait le ministre de l'Intérieur de l'époque, son nom m'échappe, Castaner, qui disait que voilà, sur les ronds-points, voilà, les gens faisaient n'importe quoi parce qu'ils étaient pris de boisson. D'ailleurs, il y a eu des débats hein, sur les ronds-points, pour pas que les ronds-points deviennent qu'un lieu d'apéro. Ça, on y a assisté. Donc voilà, il y a peut-être des parallèles à faire sur la façon dont les classes dirigeantes essaient d'accabler de tous les stigmates les gens ordinaires dès lors que cette population-là entre en révolte ou s'occupe des affaires sociales et politiques. Et on leur rappelle que ce n'est pas leur place. Donc il y a toujours cette idée d'un discours en fait qu'on impose ou enfin voilà qu'on porte aux classes dangereuses.
C'est ça en fait leur vrai défaut, c'est de vouloir faire de la politique peut-être et pas de la manière entendue par les classes dominantes.
Et donc on va les faire passer pour des sauvages ou des ivrognes plutôt que de prendre en compte leurs arguments et leurs raisons sociales et politiques.
Mathieu Léonard, merci beaucoup. Donc, ce sont toutes ces questions que nous pourrons justement développer, creuser avec vous. Et après, j'imagine aussi la présentation à la petite base, donc l'ancien local du Parti communiste, boulevard des Cévennes, au Vigan, ce vendredi 27 octobre à partir de 18h30 pour la présentation du livre, donc L'ivresse des communards, qui est édité. J'ai pas les éditeurs d'ailleurs. Je sais pas si.
C'est Luxe, la maison d'édition.
Luxe, voilà, si vous voulez les retrouver. Et c'est d'ailleurs aussi sur Facebook, je crois qu'il y a une page dédiée au bouquin, si je ne me trompe pas.
Il y a des événements, en tout cas. Enfin,
On peut retrouver des traces sur le net si on s'est fouillé.
Voilà.
Et ben, merci beaucoup. Et puis, à très vite.
Voilà donc pour la rencontre avec Mathieu Léonard, donc vendredi 27 octobre à 18h30 à la petite base au Vigan. On continue cet agenda du côté de Vic-le-Fesque au foyer, donc vendredi 27 octobre à 20h30. Donc c'est pour un public ado-adulte, c'est un duo de clowns qui s'appelle Le Grand Frisson par la compagnie Clap. Bienvenue au 22e Salon international du spiritisme de l'ufologie et du macramé. Vous allez assister à une séance publique de médiumité et entrer en contact avec l'âme d'un ou d'une défunte célèbre grâce à une équipe de professionnels. Un spectacle qui vient questionner avec humour et décalage notre époque en quête de sens, une parodie jubilatoire aux frontières de l'étrange. Voilà, c'est organisé dans le cadre de la saison culturelle d'automne, donc de la communauté de communes Piémont-Cévenol. Chaudron du rock à la rock, alors au programme Vendredi 27 octobre, un concert de lancement de la saison avec les Charolles and Sugar à partir de 20h, donc country, folk et blues, formation acoustique, guitare, banjo, basse et accordéon. Ils chantent en 5 langues différentes avec pour fil rouge le monde ouvrier et l'envie de vous ambiancer. Ils sont toujours prêts à en découdre et vous. Et on continue avec le chaudron du rock le samedi 28 octobre avec une soirée disco électro paillette avec digital pour vous faire danser de 19h jusqu'à 1h du matin. Décoration paillette et boule à facettes, ramène ton plus beau déguisement et viens illuminer la piste du chaudron. Et bien sûr mardi 31 octobre, il vous propose une soirée spéciale Halloween avec DJ set et live trance de 20h à 1h du matin. Pour cette soirée de l'horreur, le chaudron se transforme en bateau hanté pour vous faire danser de peur. Théâtre de l'Albarède à Ganges, samedi 28 octobre à 10h, 10h40 et 11h10. C'est la compagnie Mozo qui vous propose Rhizome, qui est une installation de bambou vivante et immersive pour les tout-petits et leurs parents. Voilà, ça dure 25 minutes et le public, c'est jusqu'à 3 ans et c'est gratuit. Samedi 28 octobre, Cinéco à Valrhog. Alors, tout un programme. À 17h, ce sera La colline aux cailloux de Marjolaine Pertin, programme de cours pour les enfants 3-6 ans, donc un ensemble de trois courts-métrages poétiques, humoristiques autour de thématiques telles que l'exil ou l'entraide. À 18h, ce sera Nina et le secret du hérisson de Alain Cagnol et Jean-Loup Felicioli, donc c'est pour les 6-10 ans. Un petit mot, donc Nina, 10 ans, est bouleversée depuis que son père a perdu son emploi dans une usine suite à des malversations menées par le contremaître. Avec son ami Mehdi, l'enfant se lance dans une quête salvatrice qui pourrait conduire à la découverte d'un trésor caché dans l'usine désaffectée. Et pour le dernier film, ce sera à 20h30 et c'est Le Livre des Solutions, un film de Michel Gondry, donc une comédie dramatique artistique dès 10 ans. Quelques mots aussi. Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour fuir son film chez sa tante de... pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste pour un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes. Pour nous parler de cinéma, Michel Gondry fait de Marc, Pierre Niney, son double à la fois irritant, déchaîné et attachant, en train de tenter de finir un film. Avec tendresse et autodérision, cette comédie réjouissante nous emmène dans les Cévennes pour, espérons-le, trouver des solutions à nos problèmes. Alors le film a été tourné dans les Cévennes, donc il y a une possibilité qu'un intervenant d'Occitanie Film soit sur certaines séances. Voilà pour Cinéco à Valrhog le samedi 28 octobre. Fête de la châtaigne à Mandagou, donc dimanche 29 octobre, ce sera autour de la salle des fêtes de 11h à 19h, apéritif en musique avec copains d'abord. Oh là là, n'importe quoi. Apéritif en musique avec copains comme goulash, repas chaud, la cuisine de Marine, grillé de châtaigne, musique à écouter et à danser avec les Namas Pamous. Buvette gourmandise, n'hésitez pas à amener poêle et trépied. Et dimanche 29 novembre, à la salle, à 11h, à la cure, c'est l'Académie de musique Sonato d'automne en partenariat avec Vivalto qui vous propose une classe de musique de chambre et classe d'improvisation sur les modes arabo-andalous. Voilà, c'est une restitution publique et c'est à 11h, à la cure, à la salle. Et bien voilà, cet agenda touche à sa fin.
Tu sais pas quoi faire ? Écoute l'agenda culturel d'Escapade.
Tous les mardis,
mercredis,
jeudis,
vendredis,
à midi.
Rediffusion le soir même à 19h.
Et en podcast à toute heure.
Sur le site radioescapades.org.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?
L'agenda culturel d'Escapade.
Pour tout savoir
sur ce qui se passe
près de chez vous.